J'avais vraiment l'impression que si Dieu m'enlevait ce zona, sa tendresse aurait été plus grande. Il y a même un groupe qui s'appelle la tendresse de Dieu. Mais je suis persuadé, dans ces groupes, il y a des membres qui ont l'impression que Dieu n'est pas très tendre. Mais j'ai la conviction, vous n'avez qu'à regarder les hommes politiques à la télévision. On vit dans une époque tellement intellectuelle et super rationalisée que les hommes politiques, sous l'influence de leur impresario, et je ne les critique pas, parce que je ne critique pas les hommes politiques comme ça, n'osent plus dire à la télévision qu'ils ont des idées. Il ne faut surtout pas dire qu'ils ont des idées, encore moins des convictions. Il n'y a plus aucun homme politique en France qui dit qu'il a des idées. Ils ont fait des études comme ça, une sorte de l'ENA, qui est un truc difficile. C'est très bien, ils ont fait des études difficiles pour diriger le pays, mais il ne faut surtout pas dire qu'ils ont des idées. Alors qu'est-ce qu'il dit, qu'ils soient de droite ou de gauche? J'ai le sentiment. Ils ont des sentiments. Et alors du coup, les curés et les chrétiens, ils disent, j'ai le sentiment. Non, j'ai la... Parce que c'est dans la Bible, la certitude. Et d'où la limite, voyez, je prends une dernière par là, pour vous montrer l'importance de lire la Bible. Il y a quelques années, je prêchais une retraite de séminariste. Et alors il y avait là un gars, qui est devenu d'ailleurs depuis supérieur du séminaire interdiocésain de Lille, et qui avait fait l'école de journalisme de Lille. Et alors, il avait appris à prier à partir de la lecture du journal, qui est le devoir d'État du bon journaliste. Tous les matins, il passe 2 heures à dépouiller le monde. Et il avait tellement appris à prier à partir de la vie, à partir du quotidien, du vécu du quotidien, comme on dit, qu'il ne priait plus à partir de la Bible. Et il a dit à ses copains séminaristes cette formule magnifique que je n'ai jamais oubliée. Je me suis aperçu, à la suite de l'enseignement du père d'Escoumont, qu'il manquait un baffle à ma stéréo. Je priais tellement à partir de la vie, du journal, que je ne priais plus aussi à partir de la Bible. Si vous ne priez qu'à partir de la vie, et Dieu sait si on peut prier en disant « Seigneur, merci pour cette merveille que tu es en train d'opérer dans le cœur d'un ami. Pardon Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de cette personne. » Comme c'est beau ces prières d'action de grâce et d'intercession. Mais si vous priez toujours comme ça, mes chers amis, le bon Dieu, il ne peut pas en placer une. C'est toujours vous qui prenez l'initiative de la prière. Ça lui plaît, notez. Quand vous lui dites, Seigneur, écoute-nous. Il le sait, mais il aime bien qu'on lui redise des choses qu'il sait déjà. Donc je ne critique absolument pas ce genre de supplication d'action de grâce. Mais il faut de temps en temps que le Seigneur il puisse vous dire, pousse, je peux te dire quelque chose? Parce que tu sais, ton zona, ça ne parle pas tellement de la tendresse de Dieu. Ou bien tes assistantes sociales, toutes les misères que tu ne cesses de rencontrer, ça ne parle pas tellement. Ou bien tes cancérologues, ça ne parle pas tellement de la tendresse de Dieu, tous ces cancers. Qu'est-ce qui me dit que Dieu est tendresse? C'est la Bible. Je pense à ce médecin qui avait organisé toute une réunion à Abbeville pour médecins, aides-soignantes, infirmières, qui m'avait demandé de les aider à réfléchir sur ce qu'on peut faire pour tout ce monde de souffrance. Qu'est-ce qu'on peut dire à un incroyant qui n'a pas la foi pour lui faire comprendre que Dieu l'aime? Je dis, mon cher ami, par définition, vous ne pouvez rien lui dire. Par votre compétence professionnelle, par votre gentillesse, votre sollicitude, votre sourire, vous pouvez être auprès de lui une icône de la tendresse de Dieu. Peut-être que ça va l'aider à découvrir Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu l'aime? C'est la Bible. C'est pas évident. Je crois que c'est la limite du témoignage par la charité fraternelle et tout ça. C'est très important, je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne suffit pas. Il y a des cas où la souffrance est tellement grande que c'est la parole de Dieu qui m'affirme que sa tendresse est sans mesure, quelles que soient les circonstances. J'ai envie de terminer en vous chantant une petite ritournelle. J'ai composé sur un air de Beethoven quelques paroles sur le jubilé. Pour entonner un cantique qui ne soit pas trop classique, reprenons une musique qui soit un bel allegro, que les cordes et les flûtes chantent par monts et par vaux, et qu'ainsi se répercute la louange du Très-Haut. Il n'est pas toujours facile d'être une âme qui jubile, c'est en lisant l'Évangile qu'on devient toujours joyeux. Jésus déploie sa puissance pour guérir les malheureux, et par sa douce présence, il remplit nos cœurs de Dieu. La joie est chanson chrétienne, et Dieu veut qu'elle revienne, nous bercer comme une antienne que Jésus d'abord chanta. Loin de nous toute tristesse, chantons tous Alléluia. Notre-Dame de Liesse, avec toi dansons de joie. Quand nos frères se chamaillent, qu'ils bâtissent des murailles, que bien pire ils se mitraillent, n'allons pas désespérer. Les frontières et barrières peuvent un jour s'écrouler. En exaucant nos prières, Dieu les fera basculer. Pour garder notre courage, à toute heure et à tout âge, tournons bien notre visage vers Jésus notre Sauveur. Il ne cesse de sourire à tous les pauvres pécheurs, et nous savons qu'il admire ceux qu'il aime de tout cœur. Cette année faisons la fête, nous chanterons à tue-tête, il faut que chacun s'apprête à chanter comme un pinson. Dieu lui-même nous invite à sortir de nos prisons, car l'esprit qui nous habite élargit nos horizons. C'est tout, voilà. Ça peut chanter sur l'hymne à la joie d'ailleurs. Comment c'est l'hymne à la joie? La 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 comme un pinson. Dieu lui-même nous invite à sortir de nos prisons, car l'esprit qui nous habite élargit nos horizons. La 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 la. Nous allons donc aujourd'hui étudier cette question si importante, si souvent posée par les jeunes et les moins jeunes. Comment peut-on rester sereinement chrétien alors que des millions et même des milliards de gens profondément religieux souvent, aimant beaucoup leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, des prodiges de charité fraternelle, n'ont pas la même idée. Pensez à Gandhi. Quel est celui d'entre nous qui se sentirait plus grand que ce géant de la non-violence qui a réussi à chasser les Anglais de l'Inde sans verser le sang, sinon le sien, puisqu'il a été assassiné à cause de cela? C'est une question fondamentale. Comment rester profondément sûr de sa foi comme un Jean-Paul II, tout en étant profondément attentif aux autres et tolérant vis-à-vis d'eux? Alors je rappellerai trois attitudes. Je n'insisterai pas sur le fait que on peut être à la fois très certain et très tolérant. Je dirais même plus que plus on est bien affirmé dans sa foi, plus on accepte volontiers que les autres ne pensent pas comme vous. On a souvent remarqué que les fanatiques étaient des gens qui n'étaient pas tellement sûrs d'eux-mêmes et qui avaient besoin d'entendre chanter toute la meute dans le même sens pour se rassurer sur leurs propres incertitudes. Quand on est bien installé dans sa foi, on accepte les contradictions, ça ne vous dérange pas. Je rappellerai trois attitudes que les chrétiens n'acceptent pas vis-à-vis de ce pluralisme religieux. Et puis, dans cette deuxième partie, beaucoup plus longue, je montrerai comment je fais pour rester sereinement chrétien. Trois attitudes donc non chrétiennes. Je dis bien, pendant 10 minutes, je vais dire ce que je ne crois pas. Trois attitudes non chrétiennes. L'athéisme, Dieu ne permettrait pas s'il existait une telle variété d'opinions à son sujet. Le déisme, la grande religion, si l'on peut dire, du 18e siècle, déjà évoquée hier soir. Et les sectes, qui inventent une nouvelle religion pour l'avenir. Premièrement, l'athéisme, ce fut la grande question du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Même les évêques réunis à Vatican II, c'est pas une erreur théologique, c'est une petite erreur sociologique, En 1962, on pensait que la fin du 19e, du 20e siècle serait encore un grand siècle d'athéisme. On ne prévoyait pas le retour du religieux constaté actuellement par tous les sociologues. Il suffit de voir le succès des livres sur la prière, qui était impensable il y a 40 ans. Donc l'athéisme, ce grand mouvement qui s'est enraciné dans la pensée de trois grands philosophes allemands, Marx, Freud, Nietzsche, qui prétendent que la religion est un stade dépassé de l'histoire de l'humanité, lié à un sous-développement économique, pensent les marxistes, à un sous-développement culturel, pense Nietzsche, à un sous-développement psychologique, pense Freud. Bon, je ne vais pas faire un cours là-dessus, parce que c'est un problème un peu dépassé. Je vois, on vend là des cassettes de Bernard Pérousse, un prêtre de l'Emmanuel que j'aime beaucoup, que j'ai connu lorsqu'il était encore séminariste et que je lui prêchais une retraite. Lorsqu'il était professeur d'histoire à l'université de Bordeaux, la plupart de ses collègues étaient marxistes. Quand il est devenu leur aumônier, la plupart de ses collègues sont devenus New Age. Ce qui finalement est peut-être un peu la même chose, mais je n'ai pas le temps de développer cela. Donc je n'insiste pas, je pense que c'est pas... Des gens qui ne croient pas du tout à l'existence de Dieu, il y en a, mais ils sont très rares, actuellement. Pourquoi ? Ben parce que quand on étudie le corps humain et qu'on voit l'extraordinaire complexité du corps humain, pour que vous soyez là à peu près en bonne santé, il faut qu'un tas de mécanismes se produisent. Dire que c'est le résultat du hasard et de la nécessité, c'est un peu gros. Il n'y a pas 2% du monde scientifique qui affirme un athéisme aussi brutal. C'est évident, comme disait Einstein, ce qui est incompréhensible dans le monde, c'est que le monde soit compréhensible. W égale MC2, la fameuse équation d'Einstein, bah, il avait bien conscience que ce n'est pas lui qui l'avait créée, il l'avait découverte. Il y a donc une intelligence qui doit penser à ça de toute éternité. Seulement, est-ce que c'est une intelligence personnelle ? C'est le gros problème de toutes les religions et de toutes les philosophies du monde. Est-ce que Dieu est quelqu'un ? Einstein et combien d'autres savants pensent qu'il y a une dialectique dans le monde qui fait que c'est pas mal fait quand même. Le monde des étoiles, plus on étudie le monde des étoiles ou le monde du corps humain, c'est intelligent tout cela. Seulement, c'est une intelligence personnelle. L'athéisme. Deuxième solution, le déisme. Toutes les religions sont vraies, seraient vraies dans la mesure où elles affirment l'existence d'une réalité divine. Elles seraient fausses dans la mesure où elles penseraient avoir la vérité. C'était l'idée de Robespierre. Robespierre, cet avocat originaire d'Arras, était, je dirais, profondément religieux, beaucoup plus que Voltaire. Il croyait à l'existence d'un être suprême. Seulement, il trouvait complètement ridicule que les catholiques veuillent avoir raison contre les protestants, contre les juifs, contre les musulmans. Tout ça, ça se vaut. Alors ça, c'est extrêmement répandu aujourd'hui. Moi, je connais des parents qui mettent leurs enfants dans l'enseignement catholique et qui pensent comme ça. Et je les respecte, bien sûr. Tout à fait pour donner une éducation religieuse aux enfants. Mais, hein, monsieur l'abbé, j'entends ça, moi, dans des réunions de parents. Vous êtes intelligent, vous savez bien que toutes les religions se valent. Parce que ce serait vraiment intolérant de penser qu'on a plus raison que les musulmans. Je me suis allé prêcher une retraite il n'y a pas longtemps, il y avait là 150 personnes, une personne qui m'a agressé. Monsieur l'abbé, c'est parce que vous n'avez pas voyagé. Les musulmans, ils ont autant raison que nous. Je suis profondément chrétienne, vous savez, mais je ne supporte pas que vous disiez que les musulmans aient tort. Si j'avais été méchant, j'aurais dit, madame, vous êtes folle. Vous n'êtes plus sensible au principe d'identité. Un chat, il est mort ou il est vivant. Les musulmans disent que le Christ n'est ni mort ni ressuscité. Vous savez peut-être que le Coran pense que Jésus était un homme trop merveilleux pour qu'Allah ait pu permettre qu'il meure sur une croix. Pour les musulmans, c'est un autre qui est mort sur une croix parce qu'il a été remplacé au dernier moment par quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas possible qu'un homme si merveilleux que Jésus puisse mourir sur une croix. A fortiori, il n'est pas ressuscité. Donc nous disons, il est mort et il est ressuscité. Les musulmans le disaient, il n'est ni mort ni ressuscité. Il y a l'un des deux qui se trompe. Ah ben non, disait cette personne, ils ont tous les deux raison. Bon, je n'ai pas insisté, vous comprenez, hein. Mais vous avez des gens qui disent, bon, tout ça, ça n'a pas l'importance. L'essentiel, c'est de croire qu'il y a un bon Dieu, quoi, qui nous aime, qui nous dit qu'il faut quand même s'aimer un peu les uns les autres, et puis il y a une récompense au bout, mais tout le reste, c'est du folklore. Alors il y a des millions de gens qui pensent comme ça. Et des millions en France. Alors ils payent des impôts pour restaurer la cathédrale de Nantes, ils sont d'accord, voyez, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui fait venir les touristes américains en France. Il faut conserver ce patrimoine religieux. Mais enfin, vous voyez, les pagodes, les synagogues, les temples, tout ça c'est des trucs religieux. C'est le folklore, quoi. Alors c'est très lié à ce que je vous disais hier à propos des mystères. Ils sont pas pour couper les têtes comme Robespierre, hein, attention. Ils disent, toutes ces religions, c'est du folklore qui dépend des civilisations, du climat dans lequel on se trouve. Et moi je peux vous faire 3 heures de discours comme si j'étais Robespierre ou Alain, enfin tous ces penseurs qui pensent que toutes les religions se valent. Alors il faut laisser quand même des symboles, il faut laisser des folklores, des chants religieux, des pagodes, parce que tout ça c'est beau à voir. Hein. Alors, par exemple, la procession du Saint-Sacrement, pense Alain, un philosophe du début du siècle qui a formé des centaines et des centaines de profs de philo en France. La procession du Saint-Sacrement, c'est une façon de dire que le pain est sacré. Vous avez tendance à gaspiller le pain au self-service, les gars. Alors, les chrétiens, ils font une procession avec un pain dans un ostensoir, et tout le monde s'agenouille devant ce pain consacré. C'est génial! Mais ça veut dire simplement qu'il ne faut pas gaspiller le pain. Alors, les chrétiens, ils s'imaginent que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est là, sous les apparences d'une hostie. C'est un peu gros, ça ne fait mal à personne. Il faut les laisser leur faire le clore, vous voyez. Ça ne fait mal à personne. Mais quand on est un peu fut-fut, un peu intelligent, on sait bien que c'est un symbole. Des crucifix, c'est magnifique des crucifix, ça rappelle qu'il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Alors les chrétiens ils s'imaginent que c'est vraiment le Fils de Dieu en personne qui est mort sur une croix, ça c'est un peu gros quoi, hein, mais c'est le folklore ça. Attention, c'est pas ce que je pense, hein. Le baptême, ça veut dire qu'il faut être purifié. Je peux ça à la moulinette, la Trinité, ça veut dire que Dieu est bon. Alors les 3, 4, on n'est pas allé voir sur 3 personnes en Dieu, mais la Trinité, c'est sympa, quoi. Hein? Un folklore. Je comprends très bien, il doit y avoir 30% des profs de philo qui pensent ça en France, hein? Au moins. Il faut bien voir que vos enfants sont enseignés de cette façon-là. Je suis pour la liberté de conscience, hein? Donc, c'est pas facile d'être chrétien. Vous n'avez pas lu l'Évangile, les gars, disent des professeurs à leurs élèves. Vous n'avez pas lu l'Évangile? C'est génial, l'Évangile. Faut lire l'Évangile. Oh, évidemment, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'il y a dedans, quoi. Hein, disent-ils. Mais c'est génial. Lisez l'Évangile. 3e solution, les sectes. J'ai un ancien élève qui essaye de me convertir à Moon, un ingénieur. Je n'arrivais pas à le faire rigoler quand il était élève. Vous voyez le genre, hein. Bon. Ces gens-là sont prêts pour les sectes, ils sont trop sérieux. Alors, il dit, vous comprenez. Alors, il m'envoie toute la nature Moon pour que je me convertisse, bien sûr, bon. Gratuitement, mais on voit, c'est intéressant. Alors il dit, voyez, Moon, c'est génial parce qu'il avait une synthèse entre le taoïsme, le christianisme, le confucianisme, et donc ça va permettre de mordre sur le sud-est asiatique. Je n'en parle pas, on en parle déjà beaucoup moins de Moon en France. Et puis alors vous avez tout le courant du New Age, qui n'est pas, tous les courants, ce n'est pas une secte, mais vous savez que le chiffre d'affaires du New Age est 10 fois plus important que le chiffre d'affaires du livre chrétien dans les FNAC. Il suffit de regarder les étalages. Bon. Le New Age pense qu'on va vers une civilisation nouvelle, vers une religion de l'amour, ils ont toujours le mot amour à la bouche, qui va synthétiser toutes les autres religions, parce qu'à partir du moment où le soleil passe dans une nouvelle ère du zodiaque, l'ère du Verseau, Aquarius, qui verse de l'eau, eh bien on va vers une religion. Alors le christianisme a fait son temps, il a donné des choses merveilleuses, au point de vue culturel, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une déperdition du christianisme. De même que la religion égyptienne est morte, la religion juive est morte, la religion romaine est morte, la religion chrétienne, elle a fait son temps, elle a produit son fruit. Et maintenant, on va vers une autre religion. Vous savez que leur jour, c'est le jeudi. Comme les juifs, c'est le samedi, les chrétiens, c'est le dimanche, et les musulmans, c'est le vendredi. Eh bien, eux, ils font leur prière le jeudi. N'insiste pas, hein. Vous avez des cassettes sur le New Age, vous en avez sans doute de l'autre côté. Alors comment moi je fais pour être sereinement chrétien au milieu de tout ça? Tout en sachant que les autres peuvent me précéder dans le royaume des cieux. C'est évident qu'il y aura des musulmans qui auront une meilleure place que moi dans le royaume des cieux, tellement ils sont profondément religieux, respectant leur prochain, etc. Premièrement, J'ai une admiration spontanée pour toutes les religions du monde. Pour la simple raison, c'est que Dieu lui-même en a permis l'existence. Tous les enfants de sixième savent aujourd'hui que l'homme existe sur la terre depuis au moins 80 000 ans. Peut-être 400 000 ans. On a retrouvé près de Perpignan, dans la grotte de Totavel, du charbon de bois, dont on a pu, grâce à la méthode du carbone 14, on a pu montrer que ce charbon de bois datait de 400 000 ans. Si vous pensez que allumer un feu est un geste d'homme et non pas un geste de singe, bien, il y a des hommes sur la terre depuis au moins 400 000 ans. C'est ce qu'on enseigne à tous les petits gamins de 6e de France. D'où la question qu'il pose spontanément au prof, monsieur, madame, les chrétiens, ils disent que le bon Dieu, il est venu il y a 2000 ans. Pourquoi il a attendu si longtemps? Question de 6e ou de CM2. Pas une question de polytechnicien. Question toute simple. C'est une soustraction terrible pour la foi. Nos ancêtres chantaient et ont chanté encore « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » J'aime beaucoup ce chant. Ceux qui l'ont composé pensaient qu'il y avait 4000 ans entre Adam et Jésus. Ça, ce sont de bons chiffres. Entre Adam et Abraham, 2000 ans. Entre Abraham et Jésus, 2000 ans. Entre Jésus et nous, 2000 ans. Il y a encore des fondamentalistes en Amérique qui pensent qu'il ne faut pas écouter toute la science, mais que les hommes existent seulement depuis 6000 ans. Non, aucun prof d'histoire et géographie n'enseigne ça en France. Au moins 80 000 ans. Prenons 400 000. Certains disent 1 million d'années. La soustraction est terrible. 400 000 moins 4 000 ans, pendant 396 000 ans, Dieu aurait laissé les hommes se dépatouiller dans leur religion. Allez les enfants, cherchez qui je suis. Vous dites des bêtises, c'est pas grave. J'aime vous voir chercher. Et ça donne la religion des Aztèques, des Égyptiens, des Africains. Et c'est seulement avant-hier dans l'histoire de l'humanité que Dieu est arrivé en disant « Coucou, je suis là. Je vais vous dire qui je suis. » Ça commence avec Abraham, il y a 4000 ans, et ça s'est beaucoup développé avec Jésus qui est venu nous dire « Pense les chrétiens des vérités définitives sur Dieu. » Comment n'aurais-je pas de respect pour tous ces efforts de d'hommes qui pendant des siècles ont tâtonné, comme dirait l'Écriture, pour essayer d'avoir une certaine idée de Dieu? Donc c'est normal que les chrétiens étudient la religion des Aztèques au Mexique ou la religion des Égyptiens en y voyant cet effort multiséculaire de l'homme à la recherche de la divinité. Nous n'avons pas à mépriser ces religions parce que Dieu lui-même ne les méprise pas. Nota bene, il y a dans ces religions des choses qui ne devaient pas du tout plaire à Dieu, notamment la prostitution sacrée ou les sacrifices d'enfants. Si vous connaissez la Bible, vous savez combien les Cananéens, au milieu desquels vivaient les Juifs, se livraient à ces pratiques religieuses. Quand on connaissait l'orgasme avec une prostituée sacrée, on disait « c'est divin, c'est une manifestation de Dieu hein, ». Qu'on fait la Bible hein. C'est pas très catholique ce que je vous raconte. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pendant des siècles, les religieuses n'avaient pas le droit d'avoir une Bible dans leur cellule. Parce qu'elles risquaient de trouver des choses pas très catholiques. L'adultère de David avec Bathsabée, etc. Et puis deuxièmement, les sacrifices d'enfants. On croyait plaire à la divinité en sacrifiant des petits bébés. On a retrouvé dans le sol d'Israël des milliers comme ça de petits squelettes autour des temples païens. Salomon lui-même, le grand Salomon, 900 ans avant Jésus-Christ, sous l'influence des femmes païennes qu'il avait acceptées dans son harem, eh bien, il s'est remis à sacrifier des petits enfants dans la vallée de la Géhenne au sud de Jérusalem. Tout ça, c'est dans la Bible. Donc, c'est vrai que Satan se mêle à ces religions païennes. Tout n'est pas fort beau dans ces religions païennes. Il y a à boire et à manger. Mais fondamentalement, le chrétien peut respecter cette recherche religieuse de l'humanité que Dieu mystérieusement a permise. Il n'est pas venu tout de suite. Il a attendu un certain développement de l'humanité pour arriver. On pense par exemple qu'il a attendu l'unité du bassin méditerranéen pour que l'évangélisation puisse se faire plus rapidement. si le Seigneur s'était manifesté dans une petite ethnie du Cameroun. Je suis allé enseigner la philosophie un petit moment là-bas. Il y a plus de 300 ethnies différentes au Cameroun. Imaginez que Jésus se soit fait camerounais dans une petite ethnie. Comment voulez-vous que l'évangélisation ait pu se faire? Ce serait pas répandu. Bon, il a attendu l'invention de l'écriture, il a attendu l'unité du bassin méditerranéen. Bon, toujours est-il qu'en gros, le chrétien a de l'admiration pour les autres religions dans la mesure où il y voit la recherche permise par Dieu. Et c'est facile d'admirer la générosité avec laquelle les musulmans font leur ramadan. Moi, j'ai fait cours à des musulmans qui ne mangeaient pas du tout, qui en terminale ne mangeaient pas toute la journée. Ils attendaient le soir pour manger. Comment ne pas admirer tout ce qu'il y a de beau dans les autres religions? Alors comment je fais pour être sereinement chrétien au milieu de tout ça? Eh bien, j'ai la chance d'avoir la foi. Alors la foi, c'est un don de Dieu, c'est vrai, ça vous le savez bien. Mais c'est en même temps un acte de l'intelligence, de l'esprit et un acte de volonté. C'est 100% un don de Dieu, 100% un acte de l'esprit. J'ai des raisons de croire. Je vous ai dit hier que l'Église n'était pas d'accord avec le fidéisme qui pense que c'est une pure intuition. Et c'est en même temps un acte libre. Le savent bien les jeunes qui... On m'a posé la question, pourquoi beaucoup de jeunes refusent la religion à certains moments? C'est vieux comme le monde, ça. C'est qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à vivre. Et ils doivent accepter d'être, suivant la formule que certains connaissent bien, des pauvres pécheurs pardonnés, des PPP. Bon, c'est pas facile. J'ai fait classe pendant des années à des élèves de cet âge-là. C'est l'âge le plus difficile de la vie. 18 ans, c'est l'âge le plus difficile de la vie. Parce que c'est le moment où on commence à s'apercevoir qu'on en a une sacrée couche. Quand on a 11 ans, 12 ans, qu'on fait sa première communion ou sa communion solennelle, on est brave à cet âge-là. On fait des péchés de 12 ans. On n'a pas aidé son frère. Non, hein, on a taquiné la petite sœur, on n'a pas mis la table, on a été paresseux, on a été gourmand. Des péchés de gosse, et ça donne d'excellentes confessions. Mais à 17-18 ans, on s'aperçoit que on voudrait être généreux et on ne l'est pas, on reste dans ses pantoufles. On voudrait être pur et on ne l'est pas. On voudrait être transparent et on ne l'est pas. Ça fait mal, ça explique beaucoup de suicides. Quand un jeune se rate dans un suicide, il dit toujours après coup qu'il ne s'est pas suicidé par déception sentimentale, comme on s'imagine parfois, mais parce qu'il n'a pas supporté le spectacle de sa propre médiocrité. C'est l'une des premières choses à faire dans une vie adulte, accepter d'être pauvre, accepter d'être pécheur, accepter d'être pauvre pécheur pardonné, PPP. Je vous ai souvent dit que Jean-Paul II, lui, c'est un PPP, PPP, un pauvre petit pape pécheur pardonné polonais. Je vais voir les raisons que j'ai d'être chrétien. Pourquoi je suis à l'aise dans ma foi? Pourquoi je vais chanter comme tous les dimanches « Christ est ressuscité, Alléluia » à cause de trois choses. Premièrement, une expérience. Deuxièmement, des signes. Troisièmement, une histoire. Voilà le trépied solide de toute foi chrétienne adulte. Il faut les trois. Premièrement, une expérience. On a beaucoup remis en valeur, notamment dans les groupes du renouveau, et c'est une très bonne chose. L'importance de la rencontre personnelle de Jésus dans sa vie. Et en ce sens-là, on n'enseigne pas la religion. On peut enseigner les maths, l'histoire, la géo, on peut enseigner un tas de choses. On n'enseigne pas Jésus-Christ dans la mesure où on n'enseigne pas une expérience. C'est le problème de tous les parents qui sont ici. Il faut que vos enfants refassent à leur façon l'expérience de Jésus comme une personne vivante dans leur vie. Expérience à refaire. Je dirais tout à l'heure qu'il y a quand même un enseignement religieux, mais je ne peux pas tout dire en même temps. Une expérience. Alors, elle peut se faire d'une façon insensible. Ce fut mon cas. Moi, je crois que 5-6 ans déjà, Jésus, bien avant 5-6 ans, Jésus était quelqu'un de vivant pour moi. J'ai même compris très tôt, je ne sais pas pourquoi, que je devais devenir prêtre. Malgré ma timidité d'enfant, j'étais sûr qu'un jour je deviendrais prêtre. Quand ma marraine, elle m'a offert une épingle de cravate, vous savez, on offre les sangs jadis, j'ai dit merci marraine, mais en même temps j'ai dit je n'en aurais pas besoin parce que plus tard j'aurai une soutane. Hein? Et puis il y en a d'autres au contraire qui font une expérience, ça leur tombe dessus quoi. Je pense à un jeune prêtre de mon diocèse qui a emmené beaucoup de jeunes au JMJ cette année-ci. qui est devenu chrétien parce qu'il a porté les valises de sa marraine, de sa tante, à Lourdes. José, viens m'aider à porter mes valoches, elles sont lourdes. Je te donnerai de l'argent de poche pour aller t'amuser en Espagne. Que ne ferait un jeune pour aller s'amuser en Espagne? Donc elle a porté les valoches de sa tante, seulement il est resté un jour de trop à Lourdes. Le lendemain, devant le passage du Saint-Sacrement, il s'est retrouvé à genoux. Il a réalisé que Jésus était vivant. Et dans la seconde, il savait qu'un jour, il demanderait à devenir prêtre pour aider les gens à faire cette même merveilleuse expérience. Sa maman, veuve, n'a pas communié le jour de l'ordination sacerdotale de son fils. Pas plus que ses frères et sœurs. Il appartient à une famille totalement incroyante. Et aux dernières nouvelles, sa maman ne communie toujours pas. Voilà un prêtre qui aide un tas de jeunes à devenir chrétiens, mais il n'arrive pas à convertir sa maman. Vous voyez ? C'est ça le christianisme. Il ne se culpabilise pas en disant « Je ne donne pas suffisamment un témoignage de charité à ma famille. » Non, c'est comme ça. C'est curieux, mais c'est comme ça. Nul n'est prophète dans son pays. Vous savez, Jésus, ça a été comme ça. Le seul village où il n'a pas réussi à faire de miracle, l'évangile, il ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Et Jésus fut étonné. Parce que Jésus avait beau savoir au fond de lui-même qu'il était le Fils de Dieu, ce que j'ai dit hier, il avait aussi une conscience humaine comme la nôtre, et là, il ne savait pas tout d'avance. Il ne s'attendait vraiment pas à être si mal reçu dans son pays. Marc, chapitre 6, verset 6, un petit verset très important. Il a été étonné de l'incrédulité des gens de Nazareth, comme il sera étonné de la foi du centurion. Jésus est étonné comme quelqu'un qui ne sait pas, quoi, qui découvre. Donc, ne soyez pas étonnés. Que, je dis ça parce qu'il y a des gens dans le renouveau parfois qui se culpabilisent. J'ai pas suffisamment prié pour la conversion d'un tel. Non, c'est mystérieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a prié toute sa vie pour la conversion d'un magistrat de Lisieux qui avait épousé l'une de ses petites cousines, René Tostin. René Tostin est mort agnostique comme il avait toujours vécu. Au dernier moment, bien sûr qu'il peut y avoir, en nous espérant qu'au dernier moment, il y a justement « Ah, c'est vrai !» Mais vous avez des gens qui ne recevront le don de la foi qu'au moment de leur mort. Dieu est souverainement libre de ses dons. Heureusement, comme dit la Bible, un jour c'est comme 1000 ans. En un jour, en une seconde, ils peuvent réparer toute une vie. Ça a pu être le cas d'Hitler. Un jour est comme 1000 ans. C'est l'espérance de tous ceux qui prient toute leur vie pour la conversion d'un enfant, d'un mari. C'est au moment de leur mort que se fera la conversion. Premièrement, pour avoir la foi en Jésus, il faut expérimenter que Jésus est quelqu'un de vivant. Souvent, ça se fait dans un cadre de prière, comme André Frossard, de l'Académie française, qui lui aussi s'est converti en entrant dans une église, rue d'Ulm, en face de Normalsup. Il a vu des religieuses en train de prier le Saint-Sacrement. En 10 secondes, il a tout compris. Il m'a dit qu'il aurait voulu intituler son livre « Dieu existe, je l'ai rencontré comme on rencontre un platane ». Et c'est l'éditeur, non c'est François Mauriac qui lui a dit « Mon cher ami, là, le titre sera trop long, contentez-vous de mettre « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Un livre où il raconte l'accident qui lui est arrivé au quartier latin quand il était jeune. Dieu lui est tombé dessus. Et le soir, il avait un rendez-vous, un flirt avec une jeune Allemande qu'il avait rencontrée 15 jours plus tôt. Il a commencé sa conversion par un acte goujaterie. J'ai complètement laissé tomber la fille, je l'ai complètement oubliée. Mais voyez, j'avais aucune préoccupation religieuse. Et comme mon père, Eugène Frossard, avait fondé le Parti communiste en France, mes lectures de jeunesse étaient un peu orientées. C'était Marx, Lénine, Trotsky. Je me moquais éperdument de la religion, mais Dieu a mis la main dessus. Bon, comme sur Saint Paul. Bon, il y a comme ça des conversions foudroyantes. Car Dieu est libre de ses dons. Il n'avait absolument pas mérité d'être converti. Et quand il a suivi le catéchuménat, il avait l'impression que tout ce que le prêtre lui disait, il l'avait découvert en 10 secondes dans cette chapelle. Tout. Jésus-Christ vivant, l'Église, tout. Il avait tout compris en 10 secondes. Tandis que Paul Claudel, on cite souvent la conversion de Paul Claudel l'après-midi de Noël 86 à Notre-Dame de Paris. Il va falloir 4 ans pour qu'il devienne vraiment chrétien. Son cœur a été saisi. Seulement, la religion me paraissait toujours aussi absurde. Il va devoir bouquiner Pascal Bossuet, saint Thomas, pour qu'au bout de 4 ans, il puisse enfin faire sa première communion de converti, Noël 90. Je rappelle ça pour montrer que les chemins de la conversion sont extrêmement différents. Et respectez le chemin de chacun, qui est le chemin de Dieu. Et ne jugez pas quelqu'un en disant, « Bon, enfin, il devrait se convertir, quoi, avec ce qu'il a reçu. » Ben non, ça viendra. Deuxièmement, pour avoir la foi, alors, vous voyez, la rencontre de Dieu, c'est plutôt les yeux fermés, enfin, c'est plutôt dans une atmosphère de prière. Mais puisque je crois que Jésus est vivant, eh bien, il faut aller voir des traces qui peut faire de sa présence dans le monde. Il faut prendre son bâton de pèlerin. Il faut marcher. Il ne faut pas seulement marcher pour évangéliser, il faut marcher aussi pour... Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des signes que Jésus est là? Parce qu'il a l'une des petits clignotants qu'il faut aller voir. Oh, pas partout. Ce n'est pas partout qu'il se manifeste de la même façon. Il y a des moments où il se manifeste plus. Et ce sont les fameux miracles. Moi, je suis passionné depuis ma terminale par les miracles, parce que mon grand-père médecin n'y croyait pas. Il avait fait sa médecine au début du siècle où l'on expliquait beaucoup de choses par la psychosomatique. Donc quand on était malade en famille, c'était toujours nerveux. Ça ne l'a pas empêché de mourir comme tout le monde, mon grand-père. Non, il y a des miracles étonnants. J'en ai vu un presque en direct. Une religieuse que j'ai accompagné pendant des années. J'allais célébrer la messe dans sa chambre bureau à Armentières, dans le Nord. C'est même moi qui lui ai dit, votre fauteuil roulant, ma sœur, il va falloir l'acheter parce que ça se dégrade de plus en plus. Vous êtes passé de la canne aux cannes anglaises et cannes anglaises au fauteuil roulant. Donc cette fille, elle n'a pas mis le pied à terre pendant 5 ans. Et puis le 8 décembre 89, elle s'est dit, aujourd'hui c'est la fête de la Sainte Vierge, tiens, si je vais réciter mon rosaire. Et puis en récitant sa deuxième dizaine, elle qui était absolument allongée dans son lit, avec une minerve, et pour se mettre assise, il fallait que le kinésithérapeute vienne l'aider un petit peu pour ne pas briser la colonne vertébrale et la rendre complètement paralysée. Elle a senti une force extraordinaire, bon, elle s'est assise, elle s'est mise à marcher, quoi. Et des muscles qui n'avaient pas fonctionné depuis 5 ans pouvaient immédiatement grimper les 3 étages et conduire la voiture. Un beau petit miracle béton qui a été reconnu par le Vatican et qui a abouti à la béatification il y a 2 ans de Nicolas Barré, le fondateur des Dames de Saint-Maur et des religieuses de la Providence de Rouen. Oui, le Vatican raffole de miracles comme ça, incontestables. Hein? Imaginez la tête du kinésithérapeute qui venait tous les jours lui masser les fesses pour éviter les escarres. Quand il s'est rendu compte que cette fille marchait, il a dit, ma sœur, donnez-moi une chaise, j'ai le vertige. Il ne faut pas cracher dessus. Quand je pense qu'il y a encore un tas de professeurs en France qui enseignent cette idiotie, cette erreur historique monumentale que la foi pour Pascal est un pari. Même M. Mitterrand, qui avait quand même une certaine culture religieuse, il a sorti ça à Bernard Pivot à la télévision. C'est lamentable, vous voyez. François Mitterrand, il répète ce qu'il a entendu dire, la foi de Pascal, le pari de Pascal. Ce sont des gens qui n'ont jamais lu le pari de Pascal. Puisque dans le texte, il est dit que la foi est une certitude. Si vous voulez avoir de l'argent, moi j'aime bien de faire des paris quand je suis sûr de gagner, vous voyez. Pascal n'a jamais dit que la foi était un pari, jamais, 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 jamais. Mais tout le monde le dit. Enfin tout le monde. Le français moyen, quoi, le pari de Pascal, tu parles. Pascal a écrit toute une apologie de la religion chrétienne pour prouver la vérité de la religion chrétienne. Vous ne trouverez pas en librairie un livre aussi affirmatif que les pensées de Pascal sur la possibilité de prouver la vérité de la religion chrétienne. Le pari, c'est un hors-d'œuvre pour amener le parpaillot du XVIIe siècle à la foi, laquelle est chose certaine, dit Pascal dans son texte. Et Pascal accordait beaucoup d'importance au miracle. En ce moment, est célébré à l'entrée du boulevard Port-Royal, une messe. J'ai souvent célébré la messe à cet endroit-là, c'est un monument historique de Paris. À l'entrée du boulevard Port-Royal, il y a les ruines de l'ancien couvent Port-Royal, d'où le nom Port-Royal donné au boulevard et à la station RER. Eh bien, dans cette chapelle qui est à l'intérieur de la maternité Baudeloc, on célèbre en ce moment une messe Et dans cette chapelle, la propre nièce et filleule de Blaise Pascal a été miraculeusement guérie d'un bobo purulent à l'œil. Et tous ceux qui connaissent un peu Pascal savent qu'à la fin de sa vie, il préparait tout un livre sur le miracle de sa petite nièce, qui s'était produit devant, soi-disant, une relique de la Sainte Épine, de la couronne du Christ. Mais là encore, il peut y avoir de vrais miracles devant de fausses reliques. Hein ? Pascal accordait beaucoup d'importance au miracle, comme tous les vrais chrétiens. Il n'a jamais dit que la foi était à Paris. J'ai besoin de signes. Jésus n'a jamais dit, croyez-moi sur mes beaux yeux, je vous l'ai dit hier. Il a multiplié les signes, les miracles. Prenez l'évangile selon saint Jean, il est construit d'après les grands miracles que Jésus a fait depuis Cana jusqu'à la résurrection de Lazare. Malheureusement, il y a des catéchistes mal informés qui continuent à dire cette petite bêtise, j'espère que ce n'est pas votre cas, en commentant le mot de Jésus, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, le mot de Jésus à Thomas. Hein? Alors, ils disent, vous savez mes enfants, c'est mieux quand je suis dans le renouveau, vous ne risquez pas de dire ça, vous avez bien raison. Hein? C'est mieux, vous savez, quand on n'a pas besoin de miracles, hein? Quand on croit comme ça, sans avoir besoin de signes. Ce sont les orgueilleux qui ont besoin de signes. Quand on est vraiment chrétien, on n'a pas besoin de signes. Ne dites jamais une imbécilité pareille, contraire à l'évangile. Jésus a multiplié les signes. Et à la fin de sa vie, il dit, « Oh, si je n'avais pas fait parmi eux les signes que j'ai faits, les Juifs seraient excusables de ne pas croire. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et retourne chez toi. » Nous avons besoin de signes. Alors, il n'y a pas que les miracles. Il peut y avoir le témoignage d'une communauté religieuse. Il peut y avoir la transfiguration du visage du Père de Foucault depuis Saumur jusqu'à Tamanrasset. Bon, mais nous avons besoin de regarder autour de nous s'il n'y a pas des signes de la présence du ressuscité. Mais troisièmement, pour avoir une foi solide, il faut passer par le témoignage de la Bible. Parce que la foi complète du chrétien, c'est pas seulement « il est vivant », le titre de la revue de l'Emmanuel dans laquelle j'écris de temps en temps, la foi complète du chrétien, c'est « il est ressuscité ». Il est vivant, c'est pas, ça ne suffit pas pour être chrétien, il est vivant. C'est il est ressuscité d'entre les morts. Et personne d'entre vous n'a vu le Christ ressuscité. Vous avez pu l'expérimenter vivant dans un groupe de prière. Mais pour dire il est ressuscité, il faut passer par le témoignage de Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, Thaddée, les témoins privilégiés de la résurrection du Christ. C'est la foi chrétienne complète. Et il y a un tas de gens, c'est le problème d'un certain nombre de chrétiens. Je dis, oh ça c'est bon pour les intellectuels. La Bible, j'en ai pas besoin. Moi j'ai une relation directe avec Jésus. Il est vivant, ça me suffit. Ça c'est pas la foi chrétienne complète. C'est le grand paradoxe de la foi chrétienne. Je suis obligé de passer par le témoignage de juifs qui ont vécu il y a 2000 ans sous Ponce Pilate. Parce qu'il y a une manifestation, c'est ce que fait les JMJ 2000. C'est l'année du jubilé. C'est ça. Il y a 2000 ans, il y a une manifestation très spéciale de Jésus qui ne se reproduira plus jamais. Et ça énerve un tas d'intellectuels et un tas de mystiques qui voudraient avoir leur expérience. Moi, je suis dans mon groupe de prière, où ça me suffit, ouais. Voilà, ça me suffit, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je dis aux autres, allez dans un groupe de prière et vous ferez l'expérience de Jésus vivant, et ça suffit. Eh bien non, la foi chrétienne, elle est obligée de passer humblement par le témoignage de gens qui ont vécu 2000 ans avant nous. Parce que ça ne s'est pas passé en France, sous Pompidou, mais en Israël, sous Ponce Pilate. Jean Guiton me disait un jour que son grand ami Couchou, un grand athée du siècle, lui avait dit... Vous savez, votre foi, c'est quand même pas mal. Votre credo, c'est quand même pas mal. Mais il y a trois mots que je n'accepterai jamais dans le credo, c'est « sous Ponce Pilate ». Je trouve ça délicieux, vous voyez. C'est le problème de milliers d'intellectuels, de millions d'intellectuels dans le monde. Ils voudraient avoir leur relation directe avec Dieu. Ils ne, c'est tout le problème du New Age aussi. Ne supportent pas qu'il y ait eu, sous Ponce Pilate, une révélation particulière à laquelle il faut se raccrocher. D'où l'importance d'étudier une bonne foi, comme je l'ai fait, comme où il y a un livre que je souhaiterais voir dans toutes les ventes, j'aurais dû dire ça hier là, un responsable de Siloé, un livre de Vittorio Messori,